Utopode 043, 28 août 2010, Les yeux de princesse d'Adriana Le Rousseau. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Utopode. Aujourd'hui, vous allez entendre un texte inédit d'Adriana Le Rousseau, Les yeux de princesse. Adriana Le Rousseau est née en 1946 en Italie. Polyglotte accomplie, elle maîtrise l'italien, le français, l'allemand et l'espagnol et se débrouille très bien dans quatre autres langues, dont le japonais. Après une maîtrise en langue et littérature, elle exerce l'interprétation de conférences et la traduction pendant près de 30 ans, principalement auprès de l'Union européenne. Elle écrit d'habitude ses romans en italien et ses textes plus courts en français, mais Les yeux de princesse est une exception puisque sa première version a été rédigée en italien. À ce jour, elle a publié deux romans aux éditions Bragelonne, le cycle de Tashima, ainsi que quatre nouvelles dans diverses revues. Amoureuse des animaux, boulimique de lecture, férue de voyage, notamment en Asie, Adriana est établie en Belgique où elle se consacre à l'écriture. Le lecteur et ingénieur du son de cet épisode est Cédric Simon, comédien lausannois que nos auditeurs connaissent désormais très bien. Les dialogues féminins sont principalement de Stella Giuliani, autre pilier de l'équipe d'Utopode. Rendez-vous sur www.utopode.com pour plus d'infos à leur sujet. Et maintenant, tenez votre chien à l'œil, ne soyez pas trop pourri gâté et place à la littérature.
Les yeux de princesse d'Adriana Le Rousseau. Quand le premier chien mourut, Princesse avait 4 ans. Ce fut un choc terrible. Pendant que l'animal tombait du 11e étage, la fillette ne perçut que des images confuses qui défilaient trop vite pour qu'elle pût distinguer de quoi il s'agissait. Puis la lumière s'éteignit et Princesse se retrouva complètement aveugle pour la première fois depuis qu'elle était consciente. La mini-antenne lui avait été implantée à l'âge de 4 mois. Suivirent des heures chaotiques faites de pleurs et de cris. Les siens d'abord, car elle exigeait qu'on lui rende le soleil, maintenant, tout de suite. Puis ceux de Nounou qui appelaient maman au vidéophone. Quelque temps plus tard, il y eut la voix coléreuse de sa mère, rentrée à la maison de très mauvaise humeur. Elle commença par flanquer Nounou à la porte. Puis elle saisit Princesse par le bras, en l'appelant Véronique, au lieu de lui donner son vrai nom, celui qu'utilisait papa. Sans prêter attention à ses hurlements, elle la traîna jusqu'à sa chambre et l'y enferma. Princesse pleura et trépigna, mais en vain. Épuisée, elle finit par s'endormir sur la moquette, contre la porte. Elle fut réveillée par les voix de ses parents, l'une geignarde, l'autre menaçante. Le claquement d'une gifle résonna, un bruit que Princesse connaissait bien. Quand maman avait été méchante, papa se fâchait contre elle et la punissait. Enfin, papa la libéra de sa prison et la prit dans ses bras.
« Viens ici, petite princesse de mon cœur. Ne pleure pas. Papa est là. »«
Lumière !»
supplia la fillette.
« Allume, il fait tout noir !»«
C'est de ta faute, Véronique !»
La voix de maman avait un drôle de ton suppliant.
« L'antenne était reliée au jeu de pompons. Maintenant qu'il n'est plus là, on ne peut pas allumer la lumière. »«
Boucle-la, idiote !»
tonna le père.
« Que veux-tu qu'elle connaisse au système de télétransmission ? Elle n'a que 4 ans. » Au lieu de la réconforter, tu ne trouves rien de mieux à faire que de la laisser seule derrière une porte fermée. Quel genre de mère es-tu ?
Mais Victor, je t'ai expliqué pourquoi je l'avais punie. Elle n'est pas trop petite pour apprendre à respecter les animaux, ni les gens d'ailleurs. Tu ne peux pas lui permettre de faire tout ce qui lui passe par la tête. Il faut parfois dire non. Éduquer signifie imposer des limites, brider les attitudes excessives.
C'est quoi ce charabia ? Le dernier ramassis de conneries que t'as glané dans les magazines féminins, chez ton coiffeur.
Je veux la lumière,
réclama Princesse.
Tout de suite.
Demain, mon trésor. Papa appelle tout de suite au vidéophone le monsieur qui allume les lumières. Et dès demain, tu auras un nouveau chien.
Un chien comme Pompon ? Veux pas.
Pourquoi, petite princesse à son papa ?
Pompon dort quand moi je veux regarder. Il est méchant.
Véronique, lui aussi a le... avait le droit d'être fatigué de temps en temps, tu ne crois pas ? Si tu veux un nouveau chien, tu dois promettre de ne pas le jeter par la fenêtre, ni de le traîner tout le temps derrière toi, ou de lui tourner la tête de force vers ce que tu veux voir. Il faudra le laisser tranquille de temps en temps, sinon...
Sinon quoi ?
Demanda papa, de la voix qu'il prenait avec maman et les autres gens de maison, quand il était en colère. Lorsque Princesse rentra de la clinique avec un nouveau chiot relié à son antenne optique, elle remarqua à peine que maman n'était plus là. Dans sa vie, la personne la plus importante après papa était Nounou. Et justement, il y avait une Nounou toute neuve à la maison. À la mort de papa, Princesse avait 28 ans. Elle avait consommé 4 chiens, un nombre indéterminé de bonnes d'enfants, 7 institutrices et 3 gouvernantes. La quatrième résistait depuis quelques années. C'était une extra-communautaire, une crève-la-faim dépourvue de permis de travail, trop contente de la place en or qu'elle avait trouvée, logée, nourrie et blanchie en plus de son traitement. Bien entendu, elle devait être disponible 24 heures par jour, mais de toute façon, avec sa famille au diable Vauvert, de quel temps libre pouvait avoir besoin cette demeurée, tout juste capable d'annoncer « Oui, mademoiselle, non, mademoiselle » et « Y ai pas compris ». Cette femme était un vrai remède contre l'amour, avec sa grosse verrue poilue au milieu du menton. Mais il fallait avouer qu'elle savait s'y prendre avec les chiens. L'actuel pompon semblait destiné à survivre plus longtemps que ses prédécesseurs. Ce qui était une bonne chose, car Princesse détestait les séjours d'une semaine en clinique, obligatoire pour calibrer l'antenne du chiot. Tant que la liaison avec le nouveau bio-émetteur, comme disait le docteur Martins, n'était pas en place, elle restait complètement aveugle. Elle détestait tout autant les chiens, ces bêtes malodorantes et stupides avec lesquelles elle était obligée de vivre en contact étroit. C'était déjà ennuyeux d'obliger la bête à garder la tête tournée vers ce qu'elle voulait regarder, mais il y avait pire. Parfois, elle était obligée de percevoir par les yeux du chien un endroit différent de celui où elle se trouvait. Et ça, c'était carrément l'horreur. Cela arrivait quand l'une des femmes de chambre sortait le pompon du moment pour qu'il fasse ses saletés. Durant quelques minutes, Princesse, assise dans un fauteuil du salon, voyait défiler des trottoirs et des troncs d'arbres. La contradiction entre les images que le chien envoyait à son cerveau et les sensations olfactives et tactiles transmises par le lieu où elle se trouvait lui donnait des crises de vertige. En une occasion, elle avait même vomi. Ce cochon de pompon s'était intéressé de trop près à une grosse crotte. La boniche avait été flanquée à la porte d'Ardard, comme de bien entendu. Avec Inès, la gouvernante actuelle, ce genre d'incident ne se produisait pas. Elle sortait le chien tôt le matin, avant que Princesse se réveille, ou l'après-midi, à l'heure de la sieste. Les différents pompons avaient toujours passé la nuit dans un cagibi parfaitement sombre, pour ne pas envoyer au cerveau de Princesse des images qui l'auraient empêché de s'endormir en paix. Quand elle sonnait pour se faire apporter le chien, il lui fallait donc attendre de longues minutes, le temps qu'une bonne ouvre le cagibi, sorte l'animal pour qu'il lève la patte et le lui amène. Inès, par contre, arrivait tout de suite, à croire qu'elle faisait dormir ce kleps puant sur son lit. Certaines personnes n'ont vraiment aucune notion d'hygiène. Entendons-nous bien. Princesse n'était pas raciste, comme ces ridicules va-nu-pieds à la boule tondue et aux bras couverts de hideux tatouages qui galopaient partout en scandant des slogans plus ridicules encore que leur apparence. Mais enfin, il fallait bien reconnaître qu'il existait des différences entre les gens, et pas juste sur le plan culturel. Pour en revenir à l'actuel pompon, celui-ci jouissait d'une bonne santé et ne semblait pas enclin à refuser de manger pour se laisser mourir, comme pompon 2, ni à se couvrir de dégoûtantes croûtes d'eczéma, comme pompon 4. Ce qui ne changeait rien au fait que Princesse ne pouvait pas le blairer. Dépendre d'une fichue bête pour accomplir les actes les plus simples de la vie quotidienne aurait suffi à faire sortir de ses gonds n'importe quel être humain normalement constitué. Quand le docteur Martins l'appela pour lui proposer un nouveau système de vision assistée qui lui permettrait de se passer d'émetteurs biologiques, Princesse fut aux anges. Au lieu d'attendre la visite à domicile, Martins avait déclaré ne pas être disponible avant le mercredi de la semaine suivante, et ni promesse ni menace voilée n'avait suffi à le faire changer d'avis, elle se précipita à la clinique.
« Ce procédé,
lui expliqua le médecin,
a été mis au point il y a un petit moment. Mais l'homologation vient seulement de tomber. De plus, ce n'est que tout récemment que les techniciens sont parvenus à une miniaturisation satisfaisante de l'émetteur. Vous avez le choix, mademoiselle. Vous pouvez attendre une année ou deux en comptant sur le fait que la miniaturisation sera plus poussée d'ici là, ou vous faire immédiatement implanter une nouvelle antenne qui pourra être couplée à l'émetteur mécanique. » C'est une sorte de petit robot qui pèse 300 grammes. Vous pourrez le porter en bandoulière comme un sac à main, en utilisant une manette pour diriger les lentilles du viseur dans la direction voulue. Regardez. Voilà l'appareil.
Princesse fit pivoter la tête du chien vers l'objet indiqué, avec une telle brusquerie que l'animal gémit.
Quand pouvez-vous m'implanter la nouvelle antenne?
Quand vous voulez.
Très bien, docteur. Tout de suite, alors. Je n'ai pas besoin de rentrer à la maison. J'ordonnerai à l'une des bonnes de m'apporter le nécessaire pour mon séjour en clinique.
Pas si vite, mademoiselle. Les opérations de calibrage vont être un peu plus complexes que quand il s'agissait juste de passer d'un animal à un autre. Les nouveaux transmetteurs ont été conçus pour des bébés nés aveugles. Alors que vous, vous avez bénéficié pendant 28 ans d'une vision fort différente de la vision humaine. Les chiens perçoivent mieux les objets en mouvement dans la pénombre ou au crépuscule. Mais chez eux, les photorécepteurs, c'est-à-dire les éléments nécessaires à la vision des couleurs, sont en nombre nettement inférieur. Bien que le robot soit sensible aux longueurs d'onde perceptibles par l'œil humain, votre cerveau, mademoiselle, ne parviendra probablement pas à intégrer un spectre chromatique complet, parce qu'il lui manque une partie des références nécessaires. Voilà pourquoi nous avons procédé à la première intervention quand vous n'étiez âgé que de quelques mois. Si nous avions attendu jusqu'à ce que vous ayez 2 ou 3 ans, votre cerveau aurait reçu les images, mais il n'aurait pas été en mesure de les élaborer et de les interpréter. En pratique, vous auriez continué à être aveugle parce que la perception consciente vous aurait fait défaut. Vous comprenez?
Non, mais je m'en fous comme de ma dernière chemise. Une seule chose m'intéresse. Combien de temps vous faudra-t-il pour adapter, calibrer et que sais-je encore?
1 semaine ou 2. Mais vous n'êtes pas obligé de rester hospitalisé tout ce temps. Si vous pouvez passer demain matin au laboratoire, nous procéderons au premier réglage. Après quoi, vous devrez revenir 2 jours pour des contrôles. Si tout va bien, je serai en mesure de procéder à l'intervention.
Le médecin consulta l'écran de son ordinateur.
Le mercredi 28. Ça vous convient?
Princesse hocha la tête.
Alors c'est d'accord,
conclut Martins.
Aujourd'hui, je n'ai pas besoin du chien.
Déclara Princesse le mercredi 28 au matin. C'était le moment qu'elle détestait le plus. Inès qui arrivait avec le kleps dans ses bras et l'image de la chambre depuis la porte avec elle-même au lit avant que l'animal cache son museau sous le bras de la servante en gémissant.
« Pas pompon ?»
demanda Inès.
« Pompon, idiote, pompon !»
la reprit Princesse.
« Non, je n'en ai pas besoin, je vais à la clinique. » Enferme-le dans le cagibi et ne lui ouvre la porte sous aucun prétexte. Je ne veux pas voir des images de trottoirs et de flaques de pisse.
Il n'est pas compris.
Tiens donc, comme c'est nouveau. Chien, cagibi, porte fermée.
Princesse s'habilla en vitesse, sans aide. La veille au soir, elle avait préparé ses vêtements. Il ne lui restait qu'à les enfiler. Puis elle demanda qu'on lui appelle un taxi.
Pas petit déjeuner.
Non,
répondit la jeune femme. Elle devait se présenter à jeun. Mais comment expliquer à cet imbécile quelque chose d'aussi compliqué que l'intervention chirurgicale qu'elle allait subir?
Pompon est dans le cagibi?
Oui, mademoiselle.
Par précaution, elle tâtonna jusqu'à la porte du réduit et la ferma à clé. Si l'intervention marchait, elle n'aurait plus besoin du sale cabot. De la gouvernante non plus, d'ailleurs. Pour une femme avec une vue normale, les 2 bonnes suffiraient largement. Elle passa les 3 jours suivants dans une alternance d'espoir et de découragement. Le premier moment pénible fut quand, à son réveil, le médecin lui annonça qu'ils avaient estimé opportun de ne pas enlever l'ancienne antenne, bien qu'elle soit devenue inutile. L'os temporal, en croissant, avait englobé une partie de l'appareil. Pour l'enlever, il aurait fallu la trépaner, une opération importante pour peu de choses. De toute façon, Les minuscules électrodes reliées directement au corps géniculé auraient dû rester en place pour être connectées à la nouvelle antenne. Suivirent des heures d'attente angoissée pendant que l'antenne était reliée au robot, puis calibrée. Un premier éclair de lumière, trop forte, puis une vision incertaine. La chambre semblait plongée dans l'ombre. Enfin, après ce qui lui parut des heures, les deux techniciens parvinrent à un résultat satisfaisant. Princesse distinguait les détails mieux qu'avant l'intervention.
« Normal, »
lui expliqua Martins.
« La vision du robot est plus performante que celle de l'œil humain, alors que celle du chien est médiocre. Demain, je vais procéder à toute une batterie de tests. Après quoi, je crains que vous deviez supprimer votre animal. Cela vous sera sans doute pénible, mais c'est... »
Princesse éclata de rire.
Je suis impatiente de m'en défaire. En auriez-vous l'usage pour une expérience quelconque? Sinon, je le ferais piquer.
Un animal de laboratoire peut toujours être utile,
expliqua le docteur.
Mais le garder en vie serait dangereux pour vous. À l'époque, votre père avait exigé un couple émetteur-récepteur d'une puissance énorme. Je lui ai expliqué que c'était inutile, puisque le chien devrait se tenir tout près de vous. Mais il n'a pas voulu en démordre. Même à une distance de plusieurs kilomètres, vous risqueriez de percevoir des images qui viendraient se mélanger à celles émises par le robot. Ce serait désastreux.
Crevez-lui les yeux, alors.
Martins tica.
Je préfère éviter tout risque. Faites-le euthanasier au plus vite.
Princesse téléphona chez elle pour ordonner qu'on amène le fichu pompon chez le vétérinaire. Après quoi, elle s'agrippa au montant du lit en attendant les habituelles sensations désagréables. Misère. C'était encore pire que d'habitude. Maintenant, elle recevait deux images qui se superposaient. L'une floue, l'autre plus nette. L'infirmière qui vint lui apporter le dîner lui apparut comme un ectoplasme passant au travers d'un trottoir en mauvais état. Princesse aurait dû préciser à la bonne qu'il fallait se rendre chez le vétérinaire en taxi, parce que c'était urgent. Mais que faisait cette demeurée? Elle ne prenait même pas le bus. Avait-elle l'intention d'y aller à pied? Cela risquait de prendre une heure au bas mot. Il en fallut deux pour qu'enfin, les images transmises par Pompon disparaissent d'un coup. Princesse soupira de contentement. Elle s'était sentie tellement mal qu'elle n'avait pas réussi à avaler la moindre miette de son repas. Même si à présent trottoir et roues de voiture avaient cessé de traverser la chambre, les nausées refusaient de la lâcher, et la seule vue de la nourriture l'indisposait. Elle se coucha en chien de fusil et s'endormit. Elle fut réveillée par le chariot du petit déjeuner. Avant même qu'elle ouvre les yeux, la première vision qui lui parvint fut le spectacle d'un morceau de moquette recouvert de taches et d'une soucoupe ébréchée pleine de croquettes pour chiens. Dès que l'infirmière eut actionné l'interrupteur du robot, la chambre de l'hôpital se superposa à la moquette, sans parvenir à la cacher pour autant.
« Le téléphone !»
brailla Princesse en tendant la main vers la table de chevet, où la nourriture pour chiens se mélangeait à son thé et à ses toasts à la confiture d'orange amère. Elle eut l'impression d'enfoncer les doigts dans les croquettes, retira sa main d'un mouvement brusque et renversa le téléphone. Alors elle se mit à hurler. Il y eut pas mal d'agitation. Entre Princesse qui menaçait de porter plainte individuellement contre chaque membre du personnel de l'hôpital et les infirmières qui tentaient de la calmer. L'une d'entre elles, manifestement un peu moins idiote que ses collègues, se résolut enfin à téléphoner au docteur Martins, bien qu'il ne fût pas encore 7 heures du matin. Le médecin arriva aussi vite que possible et Princesse l'accueillit en criant que c'était intolérable. Que depuis qu'elle était réveillée, elle avait recommencé à voir par les yeux de cette maudite bête pourtant crevée le soir précédent. Martins protesta. Il était absolument impossible que l'antenne capte des images si le chien était mort. Puis il s'interrompit.
« Avez-vous vérifié que l'animal a été effectivement euthanasié ? »
demanda-t-il.
« Le vétérinaire a peut-être préféré reporter l'intervention pour une raison quelconque. »
« Mais oui, c'était sûrement ça. » Si la bonne avait omis de préciser que c'était urgent, le vétérinaire pouvait très bien avoir décidé d'attendre. Ou peut-être était-il absent du cabinet la veille et sa secrétaire s'était-elle bornée à prendre livraison de pompons. Et voilà qu'à présent, Princesse était obligée d'attendre le bon vouloir de cet homme qui commençait à travailler à Dieu sait quelle heure et qui, bien entendu, avait programmé une tournée de visite à domicile avant de se rendre à son cabinet. C'était inadmissible. Elle l'appela chez lui.
« Ayez l'obligeance de tuer immédiatement mon chien !»
attaqua-t-elle d'entrée.
« Qui est à l'appareil ?»
demanda le vétérinaire.
« Ah, c'est vous, mademoiselle. Vous avez réussi à en amocher encore un ? Dire que je vous avais conseillé le Lhasa Apso justement parce que cette race jouit d'une longévité exceptionnelle. Celui d'une de mes clientes a vécu 23 ans. Que s'est-il passé cette fois ?»«
Hier après-midi, »
expliqua Princesse,
« la bonne vous a apporté l'animal avec l'ordre de le piquer immédiatement. » Pour quelle raison ne l'avez-vous pas encore fait ?
Personne ne m'a apporté de chien à euthanasier.
C'est impossible. Veuillez contrôler auprès de votre secrétaire.
Je n'ai pas quitté le cabinet hier et je vous assure que votre bonne n'est pas passée.
Princesse raccrocha brutalement, puis appela chez elle. Entre-temps, la soucoupe de nourriture avait été remplacée par un paysage qui défilait rapidement. Pompon était en voiture ou dans un autobus. Mais où l'emmenait-on ? Princesse vit défiler des maisons délabrées, des trottoirs en mauvais état. Dès que l'une des bonnes décrocha, elle aboya.
« J'avais ordonné qu'on supprime le chien, oui ou merde ?»«
Bien sûr, mademoiselle, »
répondit l'employé.
« Inès l'a immédiatement conduit chez le vétérinaire. »«
Va la chercher, je veux lui parler. »
L'attente se prolongea anormalement, puis la bonne reprit.
« Elle n'est pas là. À vrai dire, j'ai l'impression qu'elle est partie pour de bon. » Elle a emporté toutes ses affaires.
Devant le visage de Princesse flottait une disgracieuse verrue poilue et une sorte de grosse limace rose. Une langue qui léchait passionnément le menton peu appétissant d'Inès. Elle allait la faire rechercher par la police, cette salope. Inès avait volé Pompon, n'est-ce pas ? Il fallait porter plainte, tout de suite. Mais comment la police la retrouverait-elle ? Si Princesse avait jamais su le nom de famille de la boniche, elle l'avait oublié. Elle ignorait même de quel pays exactement Inès était originaire. De plus, une extra-communautaire sans papier devait savoir comment se cacher de la police. Le vétérinaire avait prétendu que cette race de chiens pouvait vivre jusqu'à 23 ans. Et Pompon n'en avait que 2 et demi. Avec un gémissement, Princesse retomba sur son oreiller, fixant sans la voir une vieille balle de tennis qui rebondissait en traversant la poitrine du docteur Martins.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que le texte vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à lucas@tutopod.com pour me donner votre avis, ou mieux encore, poster un message directement sur le forum d'Utopod sur www.utopod.com. Je vous donne rendez-vous fin septembre pour un superbe texte de Sylvie Denis. En attendant, écoutez beaucoup de podcasts et portez-vous bien. Bye bye !